Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 23 août 2025, date à marquer dans le calendrier puisque nous avons fait hier soir un nouvel ATH du côté de Ethereum qui est pour rappel la seconde crypto-monnaie du marché, 571 milliards en est venu autour de 600 milliards tandis que Bitcoin pour l'instant consolide pour sa part 116 000 dollars, 2300 milliards. Donc hier on a rajouté en 3-4 heures de temps 15% du côté du cours de Ether et les altcoins, en tout cas les bons et gros dossiers ont suivi. On a du Solana à 207 dollars plus 13%, plus 11 pour Avalanche, plus 10 pour Sui. On est également à plus 10 pour Uniswap, plus 16% pour Aave, 350 dollars, 23e place, 5,34 milliards de capitalisation. Très très belle remontada pour Aave pour le coup. Ethena qui nous pousse 18%, on a 15% pour Ethereum Classic, 10% pour NIR Protocol et Ondo, 17% pour Arbitrum. Tout ce qui gravite de près ou de loin autour de la galaxie Ethereum profite bien entendu de ce sursaut à court terme, en tout cas plus 9% pour Atom Cosmos, 15-16 quasi pour Pudgy Penguins, 10 pour VeChain, également pour Render Worldcoin, plus 10 pour Sei, et on clôture donc le top 50 avec Story et Bonk qui sont à 1,8 milliard de capitalisation. Le Scalpex en 4 heures, le Bitcoin a défendu son support des 111-112, toujours pas de retour d'open interest, et pour cause tous les regards sont tournés maintenant alors que c'était pas le cas justement jusqu'à début 2025 du côté de Ethereum, voire même jusqu'à l'été 2025 puisque ça s'est fait un peu tardivement. On va voir quels seront les inflows par rapport à hier pour Ether et petit à petit on voit que des fois on a des sorties sur Bitcoin tandis que on continue d'avoir des entrées, en tout cas ces deux derniers jours, qui étaient plutôt positives sur Ethereum. Après on arrive sur une zone dure malgré tout hein, que constitue l'ATH, on l'a légèrement franchi, donc on va voir comment vont se comporter sur cette fin de mois d'août les participants au marché qui, ben pour ceux qui sont rentrés relativement tôt, commencent à prendre des profits, bien entendu. Le Crypto Fear and Greed neutral, donc pas très loin de repasser dans la légère euphorie, qui par la suite pourrait se transformer en extrême euphorie, comme vous le savez, si on avait l'alt season autour de cet automne. Et avec un mois de septembre, rappelons-le, qui historiquement, quand on a un juillet-août qui sont dans le vert, a tendance à marquer un temps de pause avant de repartir comme une balle en octobre-novembre. On part du côté des infos avec le récap de l'actu de Journal du Coin. Hier, Jérôme Poel qui a provoqué cette hausse importante donc à 16h, heure de Paris, heure française, eh bien il a pris la parole et derrière on a un Ether qui nous a dégoupillé plus 15% en 3-4 heures. C'est complètement fou et donc aujourd'hui le discours de Jérôme Poel a été vachement accommodant mais surtout on sent qu'il est en train de jeter l'éponge puisque même la cible de target qu'il s'était fixée par rapport à l'inflation de revenir à 2%, il dit en substance que désormais ils ne pourront pas l'atteindre. Donc c'est un peu ce qu'avaient envie d'entendre les marchés, avec le petit soupçon bien entendu de dire ben, on va baisser les taux mais on ne sait pas combien de fois, on ne sait pas comment, quand, pourquoi, mais il suffisait juste au marché de dire oui, potentiellement on va baisser les taux pour que tout reparte à fond les ballons. Et on a même donc le Russell du côté du marché américain qui est les small caps qu'on pourrait assimiler quelque part un peu à nos bons vieux altcoins du côté du marché crypto, ben, qui pareil est en train de repartir très très fort, le dollar qui a perdu à peu près 1%, donc pour l'instant tout va bien et c'est là où je me dis que d'un point de vue de l'économie et de la finance c'est quand même assez remarquable ces instants un peu clés où on a tendance à faire abstraction de ce qui ne va pas, du fait que l'économie américaine malgré tout est en train de ralentir, du fait que l'inflation repart, du fait qu'il y a pas mal de chiffres qui commencent à se gripper, mais voilà, tant qu'il y a Nvidia, tant qu'il y a la technologie qui porte le S&P 500 à bout de bras en cumulant, je ne sais plus quels étaient les derniers chiffres, 30 et quelques pourcents de tout le S&P 500 seulement sur une poignée d'entreprises américaines. Je me dis que oui, tant que la musique est là et que tout le monde est en train de danser, eh bien ça se passera plutôt pas mal certainement sur ce second semestre 2025. Mais que va-t-il se passer en 2026 quand petit à petit justement on va avoir cette dégradation, l'inflation qui risque de continuer de remonter assez fort? Est-ce que derrière c'est juste voilà, la sortie pour la sortie et un Jérôme Powell qui, plutôt que de laisser les taux là où ils étaient, se dit au pire on refera du quantitative easing, au pire l'administration Trump augmentera le plafond de la dette comme ils le font à chaque fois et puis voilà, c'est un peu un genre de fuite en avant quelque part. Je me pose pas mal de questions. Ceci étant dit, nous pour la crypto, ça peut nous offrir une très belle fin d'année, donc on va jouer ça tout simplement. Mais 2026, eh bien, ça corroborerait plutôt pas mal le cycle de 4 ans si on rentrait en berne. bear market par la suite pour la crypto et pour le S&P 500. On est sur un ATH, donc on pourrait là aussi voir un peu de lâcher de lest pour la suite. En tout cas, c'est comme ça souvent que ça s'est passé autour des midterms. Mais comme on en discutait la dernière fois, ça sera le thème d'une prochaine émission à venir. L'Union européenne qui envisage de lancer son euro numérique sur une blockchain publique comme Ethereum ou Solana. Donc ça accélère pour l'euro numérique. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qu'ils ont pris à bras le corps. Coinbase qui renforce sa sécurité face aux tentatives d'infiltration de travailleurs nord-coréens avec le groupe Lazarus. Le groupe japonais SBI Holdings s'associe à StarTail Group pour lancer une plateforme on-chain de trading d'actions et d'actifs réels tokenisés. Et enfin, les compagnies aériennes des Émirats Arabes Unis acceptent désormais le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDT comme moyen de paiement pour la réservation des vols. On continue d'avancer donc avec un Ether, vous n'êtes pas passé à côté, qui nous a fait un nouveau point haut à 4 880 $. C'était il y a 8 heures à peu près de temps, donc selon où vous vous trouvez sur la planète, vous aurez l'information un peu en décalage. Un marché US qui nous a rajouté en séance 1 000 milliards $, donc ça n'est pas rien pour le coup, hein, juste là aussi en quelques heures, tandis que les crypto-monnaies se sont agitées d'un seul coup, et on le verra dans un instant au niveau de l'analyse technique, on a Ether qui est en train d'arriver sur la belle zone de confluence des 0.04 ETH BTC, moyenne mobile 100 qui nous attend ici. Et pour la suite, qu'est-ce qu'il faudra surveiller ? Eh bien, on a déjà un RSI hebdo qui est à 72-73, pas très loin de toucher la trend qui prend tous les points les plus saillants depuis le début de l'existence de Ether, en tout cas sur le ratio ETH BTC qui passe autour de 77, tandis que voilà, on est à 72-73. Donc on risque un peu d'avoir, je suppose, sans trop m'avancer, entre maintenant et début septembre, un cool down du côté de Ether qui peut-être passera pas immédiatement son ATH. Là, il vient de tout juste passer la tête, mais il y a peut-être besoin de se construire un petit peu plus. Et par la suite, pourquoi pas les autres altcoins qui reprendront là aussi un petit peu de force quand on voit que la Bitcoin dominance est bel et bien en train d'acter. Et ça, je vais vous en parler dans un instant parce que c'est très intéressant. Ce breakout à la baisse, on était autour de 58% de dominance hier. En cas de continuation donc du pump de ETH-BTC, on aura la moyenne mobile 200 qui à ce jour se trouve à 0.055. Sur ce ratio. La petite intermédiaire qui est autour de, en termes de résistance, 0.0478 et le point haut de 2021 qui se trouve à 0.088. Comme ça, vous avez tous les chiffres. Je vais bien sûr vous les donner dans quelques instants face au dollar. Donc à présent, la marge de manœuvre vis-à-vis de Jérôme Powell, elle est très très fine puisque les opérateurs, le consensus de marché attend de pied ferme deux baisses de taux. Ce qui fait que lui, maintenant qu'il a avancé un pion, il ne va pas forcément pouvoir revenir en arrière, au risque justement de faire très peur d'un seul coup au marché et qu'on se prenne une tatane d'anthologie d'ici la fin d'année. Donc je suppose que là, Jérôme Powell, tout ce qu'il est en train de faire, c'est donner raison à Donald Trump, c'est donner raison au marché. C'est peut-être aussi, je ne sais plus quelle était la fin, lui, de son mandat en termes de chairman par rapport à la Fed, mais je ne sais pas s'il ne devait pas partir 2026 ou 2027. Donc très certainement qu'il n'a pas envie aussi qu'on se souvienne de lui comme celui qui a lutté indéfiniment contre ce que voulait le marché à quelques trimestres très certainement de partir à la retraite. Là aussi, voilà, je fais un peu du recoupement de data pour vous donner mon sentiment. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, on a le sentiment qu'il est en train de lâcher la rampe et il y a eu tellement de pression sur cet homme, notamment depuis le mandat de l'administration Trump, qu'au bout d'un moment, c'est aussi logique qu'il aille un peu dans le sens de la marche, quitte à ce que derrière, malheureusement, on en paie les conséquences au cours de 2026-2027 et c'est très probablement ce qui se passera. Le média de l'investisseur avec Air Liquide qui vient d'annoncer le rachat du groupe sud-coréen Dig Air Gas pour 2,85 milliards d'euros. C'est la plus grosse acquisition depuis le rachat de l'américain Air Gas en 2016, donc Air Liquide qui ne déçoit jamais pour le coup. La pression institutionnelle continue sur Bitcoin en tout cas, puisque on voit qu'au niveau des inflows et des outflows, eh bien on a pas mal de sorties ces temps-ci sur Bitcoin, tandis que Ether, bon, ça a un peu fait le yo-yo récemment, mais on n'a pas eu véritablement 3-4 journées à moins 500 millions ou des trucs comme ça. C'est des chiffres que l'IA nous disait de surveiller, notamment si on commence à avoir du côté de Bitcoin et Ether en cumulatif des 500 millions d'outflow par jour. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de volatilité récemment et que petit à petit, il faudra surveiller tout ça. C'est vraiment un truc qui désormais vu qu'il y a énormément de flux institutionnels qui passent par les ETF, voire même l'immense majorité qui va passer par ça, c'est plutôt ça désormais qu'il faudra surveiller que nos bons vieux Binance ou des trucs comme ça, ou même quand on regarde les charts, hein, c'est un truc qu'on a vu ces derniers temps, on en discute de temps en temps entre nous, etc. Quand on regarde les charts sur Coinbase, quand on regarde les charts sur Binance, même sur les paires USDT où il y a le plus de volume aujourd'hui, on a des toutes petites barres de volume, on n'a quasiment plus rien comparativement à ce qu'on pouvait voir en 2020-2021. Donc il y a vraiment un logiciel qui est à update de notre côté quant à l'analyse justement qu'on fait de ces datas pour ne pas se faire fourvoyer justement sur un marché qui a profondément changé. Vous avez un petit résumé de MicroStrategy et la stratégie justement derrière. Vous pouvez consulter donc ce petit post en 6 captures d'écran. Pareil, ça vient de l'IA. J'ai vu également que Grand Angle Bitcoin en avait traité il y a 3 à 5 jours. Il y a quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires. J'ai survolé la vidéo. Ça a l'air très complet. Donc pourquoi pas aller voir de ce côté-là pour ceux qui veulent comprendre exactement comment fonctionne MicroStrategy. Plus on rentre dans le détail, plus ça paraît fumeux et complexe. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est que tant que tout monte et que le Bitcoin monte, ça se passera plutôt pas mal et le temps joue pour eux. À partir du moment où on sera en bear market, et si un jour vient à arriver un bear market sur plusieurs années, une fois qu'on aura le fameux cycle de plateau, eh bien là, ça commencera un petit peu à se gâter. Mais normalement, d'ici à 2030, en effet, ils ont tellement tout bétonné, ils ont tellement d'argent et le Bitcoin a tellement monté sur ce cycle qu'ils ont les reins suffisamment solides pour tanker à peu près tout ce qui pourrait se présenter. Et en miroir de tout ça, tout ce qu'ils sont en train de se lancer, des Ethereum Treasury Company ou des Bitcoin Treasury Company maintenant, je suppose qu'au prix du moment, le futur bear market fera un petit peu mal à ceux qui se seront lancés un peu trop tard et que de nouveau, ça viendra épurer la vague de FOMO, y compris du côté des Bitcoin et Ethereum Treasury Company. Vous avez également le très bon résumé de Raphaël Bloch quant à la BCE qui envisage de lancer l'euro numérique sur blockchain Ethereum ou Solana. Je m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas très très intéressant, mais c'est vrai que pour ceux qui vivent en Europe, eh bien ça va être un sujet et un enjeu assez majeur par la suite. Vu sur Zone Bourse hier, c'était très très intéressant. On a le Leading Economic Index par rapport au S&P 500 depuis 1980. Donc on est sur 45 ans, pas loin de 50 ans. Et donc à chaque fois qu'on a eu une décorrélation de ce Leading Economic Index qui démontre au travers de plusieurs indices dans un seul macro-indice que ça se passe pas très bien actuellement au niveau des États-Unis et notamment depuis 2022, on a cet indice qui n'a de cesse de baisser tandis que le S&P 500 n'a de cesse de monter. Eh bien, les 5-6 dernières fois que c'est arrivé, je crois que c'était 5 et là, c'est la 6e itération qui est en cours. On a eu du moins 20% dans les années 90, du moins 49%, la bubble.com internet, moins 49%, donc là, c'était un peu spécifique, moins 57% 2008-2009, les subprimes. Alors là, on avait un moins 30%, je crois, au moment du Covid. Et donc, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on va nous sortir du chapeau en 2026, peut-être 2027? Voilà, ça sera la 6e fois qu'on a eu une décorrélation comme ça, complètement monstre, entre le fameux LOI, c'est-à-dire l'indice vraiment qui mesure toute la santé de l'économie aux États-Unis et le S&P 500 qui n'a de cesse depuis 3 ans de nous faire des nouveaux points hauts, d'être tiré en mode le tyrolien de Patrick Rizzoli comme à l'époque en se disant bah, ok tout va bien ou un peu comme dans le film jusqu'ici tout va bien et puis voilà au bout d'un moment de temps en temps comme au moment des tarifs de Trump en avril on prend un moins 20% dans les dents du côté des indices, on prend un moins 30, moins 40 du côté du marché crypto, voire plus, puisque du côté des altes, n'oublions pas que entre le printemps 2024, décembre 2024 et aujourd'hui, la majorité des altcoins sont encore à moins 90 ou je ne sais pas combien. Donc vraiment, on s'est fait toller, nous, sur ce coup-là. Et pour les États-Unis, aujourd'hui, on a malgré tout en effet une tech et Nvidia et tout ce qui va gravite de près ou de loin autour de l'IA, des chipsets, des cartes graphiques et des supercalculateurs. Tout va bien dans le meilleur des mondes, dans cette révolution industrielle. Mais voilà, au bout d'un moment, tel que la bulle qu'on a connue par rapport à Internet et bon nombre d'autres sujets, viendra le retour à la normalisation. Et ce qui me fait aussi dire que on va vers des dizaines d'années qui vont être somme toute assez différentes de ce qui s'est passé justement précédemment. C'est la dernière vidéo de Xavier Delmas, mais c'est pas le seul à traiter de ce sujet, mais c'était amené de manière assez neutre et j'ai trouvé ça très intéressant, où il nous parlait du fait que on risque de rentrer dans les décennies qui viennent dans une phase de décroissance pour les marchés qu'ils vont très certainement anticiper en amont. Alors après, ça pourra être pallié justement par la superpuissance de l'IA, par le fait qu'on risque de dégager beaucoup plus de valeur que ce que ça risque d'en détruire, etc., blablabla, au niveau de l'emploi. Mais au niveau pur, on va dire, des naissances, de la natalité, de la démographie et du fait que ça, on peut d'ores et déjà le mesurer et qu'on sait exactement où on va aller, que la population vieillit énormément, on va avoir dans les dizaines d'années qui viennent une décroissance et petit à petit, probablement, eh bien, que les marchés vont devoir s'adapter autour de tout ça ou bien pricer très largement à la baisse les espérances justement de croissance, que ça soit la croissance généralisée mondiale ou au sein de chaque pays indépendamment, ou la croissance des super entreprises qui, pour quelques-unes, bien entendu, continueront de truster absolument tout ce qu'il se fait. Mais quand on a des indices comme le S&P 500, au bout d'un moment, je suppose qu'on ne peut pas indéfiniment être porté à bout de bras par 1, 2, 3, 4, 5, 7 entreprises. The Rational Route qui nous proposait le graphique du halving progresse. Et donc, quand on regarde comme ça, l'œil avisé verra que systématiquement, c'est effectivement dans les prochaines semaines où on a eu le top final des cycles précédents, voire même sur le cycle de 2013, c'est arrivé un petit peu avant, mais au début, entre 2012 et 2013, au premier cycle, voilà, c'était assez difficile finalement, vu la volatilité de ouf qu'il y a eu, de jauger de la pertinence des jours, etc. Par contre, ce qui s'est passé à compter de, on va dire, allez, entre 2015 et 2018, le cycle de 2019-2021 et le cycle là qu'on est en train de vivre, qui potentiellement trouvera sa terminaison justement sur cet automne, fin d'année 2025, là on est plutôt dans les clous, et ce qui accréditerait quelque part le fait que malgré tout, et quand bien même il y a des changements profonds, eh bien ce fameux cycle de 4 ans est plutôt pas mal respecté, d'autant plus si on se projette sur un 2026 qui pourrait être beaucoup plus tortueux. On terminera par la petite information de MetaMask qui lance son propre stablecoin, le MUSD. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, j'utilise plus que depuis des années Rabi quand j'ai besoin de faire mes petites transactions, quand j'ai besoin de faire des petites opérations sur la DeFi, etc. Bien que ces derniers temps, ces derniers mois, je ne fais quasiment plus rien comme ça on-chain. Ça risque de revenir plus tard, notamment lors du bear market, quand j'aurai besoin de faire des opérations spécifiques. Mais c'est vrai que quant à MetaMask en particulier, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors qu'avant qu'il y ait Rabi, j'utilisais quasiment que ça, comme bon nombre d'entre vous. Donc ils lancent leur stablecoin. Et je pense également qu'au travers du temps, ils ont développé leur produit positivement pour en faire quelque chose qui aujourd'hui se tient très bien. Donc c'est pas forcément pour le truc de dire Rabi est mieux, bien que sur le papier, le simple fait d'avoir des alertes quand on signe un truc ou quand on n'est pas sur le bon site, ou enfin voilà, Rabi est quand même très proactif sur la sécurité de l'utilisateur. Le fait que je n'ai pas utilisé depuis des années MetaMask, je pense que je ne vois pas, j'ai pas la vision 360 de ce que propose aujourd'hui dans l'intégralité MetaMask, mais je suppose que ça reste malgré tout encore à aujourd'hui un des incontournables en termes de portefeuille à chaud, que ça soit sur votre mobile ou sur votre navigateur internet. Alors regardons un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de l'analyse technique, et là ça fait 2 semaines qu'on fait un peu le yo-yo autour des 4000 milliards, donc 4000 chiffres ronds. La dernière fois qu'on avait fait les 3000 également, ça avait pas mal traîné, ça avait été le point dur, le point haut de novembre 2021. Là on voit qu'on a pas mal travaillé autour, on a des gros volumes qui sont en train de rentrer, et on a un RSI qui est pile poil sur la double trend hebdo et mensuel long terme autour de 70. On dit autour puisque ça va différer légèrement entre l'hebdo et le mensuel justement. Donc que va-t-il se passer? Je vous pose la question, tiens, comment vous voyez cette fin d'année? Est-ce que vous êtes en train de vous précipiter pour prendre des profits? Est-ce que vous pensez que ça va se gâter plus vite que prévu, ou bien sur anticipation de cette double baisse de taux qu'attend le consensus de marché, on va avoir cette fameuse alt season, enfin, j'ai envie de dire, qui viendra nous donner un petit peu de grain à moudre de notre côté pour tous ceux qui ont attendu jusqu'ici. En attendant, quand on parle du crypto total 2, les fameux altcoins, nous sommes toujours aux portes de l'ATH, 1710 milliards. Hier, on est venu autour de 1690. Pareil, on est sur les 3 points de contact RSI pour l'hebdomadaire. On pourra franchir les 70, ce qui nous permettrait d'avoir une accélération au point du printemps 2024 qui se trouve à 85-86. Et les points de 2021 se trouvent pour leur part autour de 97. D'ailleurs, on va se mettre une petite ligne également ici pour avoir l'extrême si jamais un jour on y vient. J'ai toujours du mal à me dire qu'on aura une alt-season qui sera dans les clous de ce qu'on a eu en 2020-2021 au moment où le monde était à l'arrêt, au moment où tout le monde voulait investir et au moment où on a eu cette injection monétaire complètement folle. Par contre, dans des proportions raisonnables, comme je vous ai parlé précédemment, d'aller chercher sur les super caps 1x2, sur les mid caps peut-être 1x3 et sur les micro caps peut-être un petit peu plus, c'est tout à fait de l'ordre du possible si on a effectivement un affranchissement ici et qu'on vient chercher pour le crypto total 2 l'échappée belle qui nous permettra en effet d'avoir cette fameuse alt season. USDC, USDT, pareil, ça fait 2 semaines un peu que c'est le yo-yo inverse du crypto total, donc on est malgré tout cloisonné ici par rapport au dollar, on n'a pas de gros crash et les stablecoins qui continuent d'être relativement supportés sur ce support. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner là l'entame de septembre, mais vu les mois fous qu'on a eu entre juillet et août, ça ne serait pas déconnant qu'on ait un septembre qui soit un peu en demi-teinte. Après là, on a un marché quand même qui commence à démontrer qu'il a eu vachement la dalle, et hier il a su le montrer, que ça soit sur Ethereum, sur des AAV, sur des Ethena. J'ai vu Etherfi également prendre plus 20%. C'est des moments vraiment charnières et importants pour le marché où on voit qu'on a quand même beaucoup d'argent qui bouge et assez rapidement. Mais de notre côté, eh bien, quand on observe le crypto total absolu, on voit que pour l'instant, on reste pas mal collé justement à cette zone de 4000 milliards. Donc on n'a pas encore énormément d'argent supplémentaire qui est rentré finalement par rapport à la zone qu'on travaille désormais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc en guise d'introduction à Bitcoin, je voulais vous montrer cette fameuse dominance. Alors premièrement, on a la grande divergence qui s'est activée et aujourd'hui on est autour de 34 de RSI. Et donc toujours dans mes petites mesures d'apothicaire, bon c'est un peu un truc qui sert à rien, mais ça permet psychologiquement de se cadrer en fait, de se faire un peu un ratio où pour moi là aussi ça sera très très difficile sur ce cycle de revenir à un 40% de dominance. Et je vous explique pourquoi d'un point de vue purement abstrait mathématique, c'est que la dernière fois on est passé en 2020 de 73-74 de dominance à un point bas ici, ou quasi point bas, j'ai pris la mesure la plus stricte par rapport aux bougies, de moins 46% de dominance. En bas, le RSI, lui, pendant que le cours a fait moins 46, il a baissé quasiment de 80%. On était à moins 79 précisément. Là, ici, regardez un peu la différence de rapport et la différence de ratio de ce que représente aujourd'hui Bitcoin par rapport à l'intégralité du marché crypto comparativement à l'époque, 2020-2021. Donc une fois de plus, ça plaide un peu pour mon propre postulat que non, les altes ne vont pas nous faire des fois 10 et des fois 20 sur ce cycle, loin de là. On a perdu 11% de dominance, le RSI a perdu 52-53. Donc si on voulait un total par rapport à ce qui s'est passé précédemment de moins 79, comme on l'a fait à l'époque, ça voudrait dire qu'à partir de la zone des 34 actuelles, il nous faudrait perdre de nouveau environ 58%. 58% qui ne sont pas très très éloignés des 52-53. J'ai fait approximativement la même mesure ici en haut pour de nouveau perdre 11%. Ça nous amènerait autour justement de la zone des 51-52. Donc on peut se dire qu'au mieux du mieux, voilà, on viendrait perdre 17% supplémentaire sur la dominance pour se retrouver quelque part, on va dire une fourchette assez élargie, entre 48 et 52% de dominance si on vient effectivement sur octobre-novembre à avoir la fameuse alt season. Le dernier palier, pourquoi il irait, pourquoi on aurait un RSI qui irait encore plus bas qu'en 2021, voilà, je me pose la question. Ça peut un jour, pour des raisons qui m'échappent peut-être aujourd'hui, arriver, mais pourquoi pas, on est à l'abri de rien sur le marché crypto, il nous l'a prouvé par le passé. Ceux qui ont des rêves de Solana à 1000$, de AAV à 1000 ou 1500$ ou des trucs comme ça, je suis pas là pour saper vos rêves, loin de là, je serai le premier heureux si un jour on a un crypto total 2 des altcoins qui pèse autant que le bitcoin lui-même, bien entendu. Mais à aujourd'hui, quand on mesure des trucs qui se tiennent à peu près au niveau des chiffres, on voit que bah, la médiane nous dit qu'en cas d'alt-season, on viendra plutôt s'établir autour de 50%, ce qui voudra dire que de point à point, si on vient à 48-50%, on aura quand même perdu sur ce cycle 27% de dominance, ce qui me semble quand même vraiment plutôt pas mal quand on s'approche d'un moins de 30% de dominance, sachant que 2021, c'était moins 46, donc c'est tout à fait dans l'ordre des choses, c'est tout à fait dans cette cassure de volatilité multi-actif et surtout du côté de Bitcoin qu'on voit et qui a été exacerbé à compter de l'introduction des ETF en janvier 2024. Et pour moi, c'est ce qui aujourd'hui a le plus de chances de se réaliser. Et si tant est qu'on y va à 50% de dominance, puisqu'on peut tout à fait s'arrêter au palier intermédiaire qu'on est en train de travailler actuellement, quelque part entre 55 et 58%. Le Bitcoin qui est dans un petit range désormais, attention à ce que bah, les deux touchettes ici à 124 ne soient pas le double top, puisque le RSI lui est bien moins bien orienté que ce qu'on peut observer pour l'instant sur le crypto total général et surtout sur le crypto total 2. Donc si les alts, pour vous faire un résumé, nous crient qu'ils ont envie de pump actuellement, est-ce que la fête ne pourrait pas être gâchée justement par la première crypto-monnaie du marché et le leader qui se dirait bah, ok, je suis venu chercher mon objectif technique des 125 sur ce cycle. Moi, ça ne me dérange pas un petit cooldown en septembre autour de 100K. Si Bitcoin retourne à 100-105, vous vous doutez bien que du côté des alts, ça ne va pas partir tout seul. Également à prendre en considération, le Bitcoin contre l'euro, pour ceux qui veulent regarder justement face à une monnaie forte, pareil, on n'a pas fait de nouveaux ATH, puisqu'on était à 106 000 euros précisément. On est un peu dans ce creux où on avait eu le double creux ici de 2021 qui nous faisait penser que bah, peut-être on pouvait avoir le super cycle ici, repartir, etc. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se matérialiser également. Donc, on ne va pas anticiper, bien entendu, bah, le top final de Bitcoin, puisqu'on espère, comme vous tous, qu'il ira à 150 000 ou qu'on viendra chercher le petit plus. Mais pour l'instant, quand on voit en effet que les altcoins sont en train de rattraper et parfois avec furie leur retard, c'est du côté de Bitcoin qu'en effet, bah, petit à petit, on sent qu'on a un désengagement et qu'on a des prises de profit qui pourraient faire basculer la balance à court terme, pas forcément dans le sens qu'on attendrait. Ah, ETH qui est magnifique, 4880 hier, l'ATH qui a été légèrement franchi, le RSI pareil qui désormais travaille au-dessus des 70 en hebdo, on est à 73,90, donc 74. Le RSI max des cycles précédents hebdo se trouve entre 85 et 93. Donc là, pareil, je vais vous faire en direct le petit calcul d'apothicaire que j'ai fait précédemment. Si on prend un RSI en bas qui est à 31,32 et qu'on a récupéré donc 74, c'est plus 134% de RSI. Pendant ces 134%, on a réalisé 2 400 $. À ici hier, 4 880, ça nous fait 250% de performance pour 134% de RSI, ce qui nous fait un ratio de 1,86. Et donc, si je mesure, si jamais ça se passait au mieux du mieux, premièrement, la première zone, plus 15, plus 16%, 85 de RSI, ça nous ferait 15,56 fois 1,86. On a dit, on a 29% du côté du cours, ce qui voudrait dire que par rapport à aujourd'hui, on se prendrait approximativement un cours à 6 250 $ pour Ether. Et si jamais il vient chercher son extrême, donc des cycles précédents autour de 92 voire 93, on est à 25%, on fait 25 fois 1,86 et on est à plus 46% de performance par rapport à là où l'on se trouve aujourd'hui, ce qui nous amènerait autour de 7 000 $. Et ça me va très très bien. Pourquoi ? Eh bien, c'est la target qu'on avait mise en avant la dernière fois en se disant que ce qui se passerait autour de 7 000-7 500 $ serait déjà très largement intéressant pour nous sur ce cycle. Et je crois de souvenir que le premier gros FIBO pour Ether est autour justement de entre 7 000-7 100 à 7 500 maximum, et après le FIBO encore d'après était autour de 11 000. Je vous dis tout ça de tête, n'hésitez pas à aller recouper les informations, mais en tout cas voilà, je vous prouve par A plus B que oui, on peut toujours avoir un RSI qui vient à 99 sur ce cycle sur Ether, bien entendu, mais au vu justement de comment se déroule le cycle, au vu de la volatilité qui tend à se casser tant que ça ça soit sur Bitcoin, que ça soit sur Ether ou peu importe, là où l'on regarde sur des capitalisations qui sont là depuis plusieurs années, aujourd'hui, je peux raisonnablement vous dire que oui, autour de 7000 sur ce cycle, ça sera déjà vraiment plutôt pas mal, d'autant plus quand on voit comment se sont fait malmener les différents participants au marché, et je peux vous dire qu'à compter là de l'ATH, il y en a pas mal qui vont être contents de sortir à bon compte. Donc cette fameuse ETH BTC 0.041 ce matin, elle a pas l'air de vraiment vouloir s'arrêter, mais 0.04 reste malgré tout une zone dure. Pareil, le RSI en est très très proche du RSI max des cycles précédents, donc vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, après un RSI, un cours qui est passé de 136% face à Bitcoin et un RSI qui est passé de le plus bas qu'il avait jamais fait d'ailleurs en avril 2023 à autour de 73-74 plus 219% de RSI. Même à l'époque, on n'avait pas réalisé ça. Je pense, si on prend ici de septembre 2019, 24-50 à mai 2021, on avait fait 241%. Donc on n'est pas très loin de faire le max RSI en termes de progression de ce qu'on avait fait en 2021. C'est pour vous dire quelle a été la fulgurance justement de ce mouvement. Et comme n'importe quel mouvement qui ont des fulgurances assez monstres, bien entendu qu'il y aura besoin au bout d'un moment de poser les choses, de se construire. Et c'est là où ça peut être intéressant, en effet, sur cette fin d'année, si une fois que Ether est bien capitalisé, ce qui est d'ores et déjà le cas, mais on a vu qu'on pouvait aller encore un petit peu plus loin, on vient à avoir par la suite une rotation du côté des autres altcoins. Et pour ça, il faudra surveiller un autre ratio qui est tout simplement l'Ethereum dominance, qui aujourd'hui est à 14,50%. On a un support qui est désormais un support, mais qui faisait office de résistance précédemment autour de 13%. Et on était quand même venu même sous les points bas sur l'Ether dominance de 2020, puisque 2019-2020, on était à 7%. Et là, on était passé légèrement en dessous. On était à 6,95%. Bon, c'est pas énorme, bien entendu. Mais voilà, ce cycle, je peux vous dire qu'à partir du moment où on a vu Ether à 4000, qu'on se voyait tous à 10000 et qu'on l'a revu à sous les 1004, ça a été dramatique. Et je pense que c'est ce qui nous a fait complètement perdre la boule sur ce cycle. Plutôt que Bitcoin, qui, quelque part, il y a beaucoup de gens qui l'ont laissé de côté et qui ne se sont tout simplement pas positionnés dessus. Je pense que Ether, ça aura été quand même très très difficile à jauger et à naviguer et à ne pas se faire sortir justement au fur et à mesure que le cycle a déroulé. Là aussi, je vous laisse seul juge sur l'Ether dominance. On est passé de 21 de RSI à désormais 73. Donc pareil, voilà, on est sur un mouvement très très vertical. Le cours de Ether est en train de devenir vertical. Donc j'espère comme vous tous qu'on ira à 7000, mais en attendant, entre 4005 et les 5000, là, il peut se passer quand même pas mal de choses. Le DXY qui a perdu un point, mais pareil, le RSI est plutôt en train de nous faire un petit pack ici et on est plutôt en train de consolider sous les 100 points qu'autre chose. Il n'est pas en train de perdre des pourcents et des pourcents en se laissant tomber comme il a fait ici de janvier 2025 à mars 2025, par exemple. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ça aussi pour 2026, mais ça sera un des signaux avant-coureurs à surveiller. Si on commence à avoir le dollar qui remonte, on saura que ça risque de commencer à se gâter du côté des marchés à risque, c'est-à-dire les actions et les crypto-monnaies. On a un S&P 500 et un Nasdaq donc qui ont clôturé à 1,50 et on devrait avoir la performance qui vient se répercuter lundi à la réouverture des bourses françaises sur le CW8 et le WPEA côté en euros, à ceci près que on a le DXY de nouveau qui joue contre nous. Donc à chaque fois que l'euro remonte, eh bien c'est l'euro qui est trop fort et donc nos indices côté en euros par rapport à un indicateur américain, lui côté en dollars, eh bien on se fait un peu punir. Ce qui veut dire aussi que le jour où le dollar perdra, eh bien on viendra avoir un rattrapage mécanique sur nos bons vieux world de S&P 500, etc., qui sont cotés en euros, donc sur la bourse française. Le gold aussi, qui récupère un petit point au passage, donc plus 1% pour le gold à 3370$ l'once. L'équivalent des altcoins pour le marché américain, le Russell 2000, donc les small cap, on est passé en 3 mois de temps, même pas, allez, à avril 2025, de 1700 points à quasiment 2400. Je regarde un peu, et là aussi, on est en train de s'approcher au niveau d'un ATH qui aujourd'hui se trouve précisément à 2440 pour le Russell, donc un truc à surveiller, puisque si ça aussi ça part, ça voudra dire quasi en simultané qu'on a l'alt season, je suppose. Là aussi pareil, le RSI est déjà relativement haut, 64-65, et on voit que dès qu'il sort la tête du bois historiquement des 70, ça a tendance derrière à se gâter. Les minières et les actions liées aux cryptos qui en ont profité, c'est le cas de SBET, donc Sharplink Gaming, qui est désormais une Ethereum Treasury Company, plus 14% pour Canaan également pour les minières, BM la manière avec Bitmain Immersion Technology. Et là aussi, tous ces trucs, c'est tellement illisible à court terme, il y a tellement de volatilité. On a une bougie avec un énorme gap qui nous fait passer en une semaine à 3500%. Derrière, le machin, il redescend, il nous perd environ 80%. Là, on parle au cours d'un même mois. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai envie de me frotter, mais peut-être que le jour où les choses se poseront un petit peu, ben, ça deviendra intéressant. Et là où ça devient intéressant peut-être, ben, c'est sur des trucs comme TeraWulf, justement, qui a des participations de Google désormais à hauteur d'une dizaine de pourcents. Là, pareil, j'irai pas y rentrer maintenant. Le RSI est très haut. On vient quand même d'un run qui nous a proposé 2000% sur cet actif. Donc, à partir du moment où on rentrera en bear market, tout ce qui va être TeraWulf, MicroStrategy, les Coinbase, les Circle, pourquoi pas un peu les minières, regarder un peu ce qui se passe au niveau des meilleures minières, Marathon, etc. Qui, d'ailleurs, je crois qu'eux aussi, ils commencent petit à petit à nous faire du MicroStrategy. Voilà, il y aura des opportunités assez monstres. Mais pour l'instant, je suppose que c'est beaucoup trop risqué de se positionner dans l'immédiat sur ces sociétés qui ont connu une croissance complètement folle au niveau de leurs cours. MicroStrategy, pour rappel, hein, pour l'instant, c'est environ 4000% et on est sur une correction si on prend vraiment la mèche de top pour le moment, qui était autour de moins 57% en avril et là, on est autour de moins 35%. Donc pareil, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, on est beaucoup, beaucoup trop haut pour l'instant pour ça. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui se fient au fameux price-earning ratio, qui disent que MicroStrategy est complètement sous-coté aujourd'hui par rapport à l'ensemble des bitcoins qu'ils ont, etc. Quand je regarde le cours, quand je regarde le RSI, pour l'instant, ça me dit que au niveau du prix, il est pile poil là où il devrait être. Coinbase, c'est intéressant, il défend le 0.382, donc autour de $290, on a clôturé à $320 hier, et Circle 135, pareil, c'est encore en phase de baisse, on est venu combler un gap ici, qu'on avait eu entre la semaine du 9 et du 15-16 juin, donc à voir en journalier, puisque là pour l'instant c'est beaucoup trop jeune hein, pour des actifs comme Circle, je suppose qu'on pourra le voir immensément plus bas au cours d'un futur bear market, mais par contre là pour le court moyen terme, c'est quand même un actif qui est passé de 300 balles à autour de 130, on a baissé de 56-57%, donc à voir les prochains résultats de Circle, mais je suppose qu'il y aura des trucs intéressants à jouer de ce côté-là. Et du côté des alts, eh bien, j'ai toujours pas fait la fameuse émission des alts, mais ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est ça, c'est par exemple Chainlink qui nous fait une très très belle montée pour le moment, enfin etc, ça se passe plutôt pas mal, voilà, mais quand on regarde, eh bien, on a soit ce qui pourrait s'apparenter à un biseau, ou aller à minima un petit canal parallèle ascendant qui est vachement resserré pour le coup, un truc dans ce style, tandis que quand en bas on observe au niveau du RSI, on n'est pas du tout sur le même mood, on est sur un petit canal parallèle soit descendant soit complètement flat, mais on voit qu'on n'a pas un RSI qui est en train d'arriver en disant ça y est, tout le monde se précipite pour acheter du Chainlink. Là on est sur Binance et on est contre le Tether, donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de volumes qui sont exécutés ici, et on le voit en bas, ces deux derniers mois on a eu beaucoup de volumes qui ont été exécutés, mais pareil, est-ce qu'on a envie d'acheter à la fin un actif qui vient quand même lors du bear market de 4,75$, on vient faire un point en décembre de 550% autour de $30, on peut tout à fait, lui, je vous l'avais dit précédemment, s'il vient à avoir une alt season sans problème, je repasse en hebdo puisqu'en journalier je trouve ça assez illisible, mais voilà, les 52$ de Chainlink, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible. Quand on est à 26, ça nous fait pile poil un x2 à venir chercher, mais fondamentalement quand je regarde les charts et même le RSI, c'est pas un truc qui me dit qu'il va finir à 100 ou 150$. Et c'est là où c'est difficile aussi pour moi en termes de communication d'essayer de vous faire comprendre que une fois de plus, même quand on regarde les charts, on n'est pas dans les configurations qu'on nous donnait justement à l'époque en 2020-2021. J'espère vivement que je me trompe et qu'on aura une liquidité sortie de je ne sais où, que tout partira encore et toujours pour toujours jusqu'au ciel en bull run et que le S&P 500 ne connaîtra pas de retracement, que Bitcoin n'en aura pas non plus et que les altcoins auront leur meilleure alt season. Pour l'instant, en tout cas, quand on regarde les bons élèves, que ça soit AAV, que ça soit Chainlink, que ça soit Ether, ou voilà, les quelques-uns qu'on a capitalisé réellement sur la chaîne ces 2-3 dernières années, on est plutôt pas mal content de ce sur quoi on s'est positionné, mais c'est pas pour autant que je suis en train de perdre la boule et de vous dire, ouais, c'est sûr que AAV va revenir à son ATH à $700, voire aller à 1000, voire aller à 1500. C'est vrai que AAV, ça fait un peu mal au cœur, quelque part, parce que quand on regarde la TVL, quand on regarde la croissance, quand on regarde le revenu généré, ça devrait aujourd'hui, techniquement et fondamentalement, être une crypto-monnaie qui serait dans le top 10, dans le top 15 à avis. Et pour autant, bah, y a l'autre partie du spectre où il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, un token de DAO, c'est pas suffisant, on capitalise pas vraiment là-dessus, on n'a pas la sensation non plus au travers de AAV peut-être de capitaliser sur le protocole de AAV en tant que tel. » Et c'est peut-être aussi ce qu'avait essayé de faire, mais là, voilà, je ne maîtrise pas du tout le dossier, Marc vous en parlera peut-être un jour bien mieux que moi, à un moment où il voulait sortir un second token, et bien entendu la communauté s'y était opposée, mais c'était un truc qui permettait, en tout cas j'en ai eu l'impression, aux institutionnels d'investir sur AAV un peu comme s'ils pouvaient investir sur une action AAV. Et là aujourd'hui, bah, ça fait partie des tokens qui, pour moi, ont leur place dans un top 3, un top 5 maximum dans un portefeuille crypto AAV, de même que Chainlink, de même que quelques autres qui sont des très très bons dossiers, des Solana sur ce cycle qui s'est totalement révélé pour le coup. Et pour autant, bah, j'ai un petit truc tout le temps qui me dit bah, si le marché ne l'a pas pricé à 2, 3, 4, 5 fois le prix auquel il est aujourd'hui, soit le marché est en train de passer à côté de quelque chose, ils vont s'en rendre compte plus tard, soit une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure pour je sais plus quel autre token ou coin, et eh bien le prix de AAV est pile poil là où il devrait être aujourd'hui. Allez, on se quittera pourquoi pas avec le BNB, et je ne vous oublie toujours pas, ne vous inquiétez pas pour la fameuse émission du côté des alts, ce qui vient de se passer récemment va me conforter justement dans le choix des alts et surtout de voir ceux qui sont forts et ceux qui ne le sont pas. Donc on n'est toujours pas en retard si alt season il y a à l'automne, mais c'est vrai que voilà, cette émission je vais vous la faire très certainement d'ici allez, le milieu de semaine prochaine, peut-être mercredi, et vous aurez également le retour semaine pro de Crypto Sapiens pour la petite analyse on-chain, ainsi que on va avoir le pilote de Hawk Research par rapport à Hyperliquid. Donc vraiment semaine pro, même si c'est pas encore la semaine de rentrée, on va vous sortir du lourd, à voir si je décale pas les grosses sorties pour la première semaine de septembre, mais je suppose que les gens, quand ils sont en train de rentrer au boulot, les gosses au milieu, la rentrée des écoles, etc., c'est pas forcément la meilleure semaine non plus, septembre, la première semaine de septembre. Bref, je ferme la petite parenthèse, puisque je vous avais quand même pris pas mal de temps aujourd'hui, mais vous voyez que c'est une émission qui prend en considération absolument tout ce qui se passe d'un point de vue boursier, d'un point de vue action, d'un point de vue des indices, pour essayer de naviguer au mieux ce qui est en train de se passer, et on continuera de faire ça sur les prochaines années. Ça va être là où ça va être le plus intéressant. Le BNB désormais 900 $, 888 au moment où j'enregistre l'émission. Les 1000 nous tendent les bras, et est-ce que les 1000 justement, d'un point de vue purement psychologique là pour le coup, ne seront pas le coup d'arrêt sur ce cycle pour le BNB? En tout cas, pour rappel et pour la petite anecdote, j'en ai encore un petit peu, un fond de portefeuille, il me reste pas grand chose, mais c'est des tokens que j'avais rentrés à 3 $ sur le cycle précédent, et c'est là où on se dit quelle a été cette folie qui s'est emparée du marché crypto en 2020-2021, et qui aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous dire avec certitude, oui, un jour vous connaîtrez un 2020-2021 pour votre propre portefeuille crypto et altcoin, mais vous voyez bien qu'au niveau des multiples, on n'est plus du tout dans ce qui s'est fait précédemment, et si un jour vous voulez aller vous frotter à de plus gros multiples, il vous faudra prendre des risques de toute façon qui seront totalement inconsidérés, que quand on n'a pas beaucoup de capital au début, bien entendu on prend, mais que petit à petit, au fur et à mesure qu'on a envie de construire quelque chose, bien entendu que l'échelle et la fourchette de risques que l'on prend s'amenuisent drastiquement. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire, c'est une émission longue mais qui vous permettra voilà, de digérer ça sur le week-end. On se retrouve comme d'habitude lundi, et je vous souhaite donc un très très bon week-end. Ciao, ciao.